Bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Camille Test et c'est moi qui vais animer ce soir cette rencontre autour de ce nouveau numéro de Nouvelles Questions Féministes qui s'appelle Féminisme au risque du sport, avec trois personnes qui ont collaboré à ce numéro que je vous présenterai dans un instant. C'est une soirée qui est organisée dans le cadre de Livres en Dialogue, organisée à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Et je voulais simplement vous dire que pour moi, c'est à la fois un honneur, parce que c'est une revue incroyable, avec une histoire incroyable, on va y revenir. Et aussi vous dire qu'à titre personnel, moi je viens d'une famille de gens très sportifs, qui depuis des mois maintenant, sur le groupe WhatsApp familial, se dispute sur par exemple la question de l'inclusion des personnes trans dans le sport. Donc voilà, c'est quand on m'a proposé l'animation de cette revue, de la présentation de cette revue, j'étais ravie parce que je me suis dit que ça donnerait sans doute l'occasion d'avoir des conversations animées à Noël prochain dans ma famille. Et j'espère que vous aussi, vous aurez l'occasion d'avoir ces conversations qui finalement font un peu le sel des fêtes familiales. Donc merci à vous trois qui êtes là et qui nous permettait en un sens de nourrir avec intelligence ces conversations. Donc je voudrais vous présenter Christelle Hamel, Ségolène Couchot-Chiex et Solène Froidevaux. Je vais commencer par vous, Christelle Hamel. Vous êtes sociologue chargée de recherche à l'INED, l'Institut national d'études démographiques en France, au sein de l'unité de recherche genre, sexualité et inégalité. Vos travaux portent sur les violences contre les femmes, la sexualité, la conjugalité, mais aussi le racisme et les discriminations raciales. Vous faites partie aussi du comité de la revue Nouvelles Questions Féministes. Et en ce sens, vous prenez un peu la suite de notamment Christine Delphi ou Simone de Beauvoir. Qu'est-ce que ça fait, un tel héritage ?
Alors, vous m'entendez ? Est-ce que ça fonctionne correctement ? Donc, un tel héritage, ça, d'abord, ça donne ça procure une certaine fierté, faut reconnaître. C'est un héritage important pour la pensée féministe et le mouvement des femmes. Ça donne beaucoup de plaisir également, puisque le comité de rédaction est un groupe d'une vingtaine de chercheuses et enseignantes dans un cadre franco-suisse aujourd'hui, et où non seulement il y a un travail scientifique, mais aussi des amitiés qui sont chaleureuses et un espace de sororité, mais aussi de débat avec de la conflictualité sur les questions politiques qui nous occupent, évidemment, mais c'est plutôt la question du plaisir que je retiens.
Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'histoire de cette revue, comment elle est née et pourquoi aujourd'hui et dans le contexte actuel, elle reste non seulement pertinente mais nécessaire ?
Alors, Nouvelles Questions Féministes est une revue qui est la succession d'une autre revue qui s'appelait Questions Féministes, qui a été créée en 1977 dans l'ébullition du mouvement des femmes qui agitait cette époque. C'est un groupe de jeunes femmes composé de Christine Delphi, Colette Capitan, Emmanuelle de Lesseps, Nicole-Claude Mathieu et Monique Plaza qui a créé cette revue Questions Féministes. Et elles ont demandé l'appui de Simone de Beauvoir pour être la directrice de publication de la revue. Alors, elles ont souhaité créer cet espace de publication parce qu'en tant que jeunes universitaires féministes, elles se heurtaient à une difficulté de faire passer leurs textes dans les revues scientifiques de l'époque. La seule revue qui acceptait leur publication était Les Temps modernes, où était présente Simone de Beauvoir. Et malgré cela, une partie de leur publication ne passait pas, malgré l'autorité de Simone de Beauvoir dans Les Temps modernes. D'où l'idée de créer leur propre support de publication pour avoir un espace où il serait possible de théoriser la situation de domination et d'oppression des femmes et d'apporter leur pierre au mouvement féministe par cet effort de conceptualisation et d'analyse de cette situation. Ensuite, ce groupe a fonctionné et a permis la publication de textes qui sont aujourd'hui vraiment des classiques de la pensée féministe. On retiendra, par exemple, les textes de Colette Guillaumin, Pratique du pouvoir et idées de nature, ou alors On ne naît pas femme de Monique Wittig, qui reprenait la pensée de Beauvoir en allant un petit peu au-delà. Nicole Claude Mathieu, dans son texte Masculinité, féminité, ou Christine Delphi, Nos amis et nous. Ce sont des textes qui tous posent des principes qui sont aujourd'hui fondamentaux dans la sociologie du genre, qui disent que la situation d'oppression des femmes n'est pas liée à leur nature biologique, qui disent encore que être femme, c'est un construit social, et que ce construit social, il est le produit d'apprentissage, et notamment d'un apprentissage de normes de genre. On n'employait pas ce terme à l'époque, mais aujourd'hui on dirait ça. Qui a un objectif, c'est la division socio-sexuée du travail et l'exploitation du travail des femmes qui sont ainsi constituées en classe par une autre classe qui est celle des hommes. Cette pensée-là, elle est aujourd'hui au fondement de toute la théorisation sur les inégalités entre les hommes et les femmes. Et dans cette période, donc c'est constitué là un cœur de pensée qui est toujours enseigné aujourd'hui et qui auquel il est souvent encore fait écho. Ensuite, Nouvelle Question Féministe a subi une période de tension. Donc, à la, en 1980, ce petit groupe se dispute, on va dire, sur, et éclate sur la question de la place des lesbiennes dans le mouvement féministe. Et donc là, Nicole Plaza, Monique Plaza et Nicole Claude Mathieu vont quitter ce petit groupe et Question Féministe va quand même continuer, mais sous un autre nom, ça sera Nouvelle Question Féministe. Et là, c'est surtout Christine Delphi qui va porter la revue pendant une dizaine d'années et continuer à œuvrer à un effort de publication. Donc ça va être une période où des questions assez fondamentales vont encore être traitées par la revue. On peut citer les enjeux de parité. Donc il y a un numéro aux alentours de 95 qui sort, parité pour, parité contre, qui pose la question des quotas en fait pour redresser les inégalités qui sont faites aux femmes et les discriminations qui sont faites aux femmes. Donc un enjeu d'affirmative action, en fait, on ne disait pas ça parce que c'était pas recevable par la société française à l'époque, mais on a parlé de parité. Des textes aussi sur la guerre, notamment la guerre du Golfe, la guerre en Afghanistan, qui ont été des thématiques où la dénonciation de l'impérialisme occidental est articulée à une conception viriliste de l'État. Et à cette période, je crois qu'on doit souligner la publication d'un texte important, qui c'est celui d'Andrea Dworkin sur l'État d'Israël et la politique coloniale de l'État d'Israël sur les territoires palestiniens. Ce texte n'a paru en 93, ce texte n'a pas perdu une ride et je vous suggère d'aller le consulter. Parce que les échos avec l'actualité d'aujourd'hui sont vraiment importants. Andrea Dworkin était une militante féministe juive, plutôt connue pour ses positions abolitionnistes sur la prostitution, mais elle avait grandi dans l'idée que l'État d'Israël serait un espace de protection pour la population juive et un espace de liberté et d'autonomie et d'égalité pour les femmes. Et quand elle découvre la situation des femmes en Israël, et la situation qui est faite à la population palestinienne en Israël dans cette période, elle change d'avis, en fait. Elle s'éloigne de son héritage qui lui est transmis par sa famille, qui sont des survivants de l'Holocauste. Hein. Donc c'est une voix juive sur cette période qui est très très importante et structurante d'une ligne que NQF va toujours porter ensuite, d'articulation de la pensée impérialiste et du patriarcat. Alors que les années 90, les publications sont un peu fluctuantes, c'est un peu difficile de faire vivre la pensée féministe au sein du monde universitaire. Mais à partir de 2000, Christine Delphi rencontre Patricia Roux, qui est enseignante-chercheuse à l'Université de Lausanne. Et là, la revue devient franco-suisse, avec l'apport d'une jeune génération suisse formée à cette pensée matérialiste qui était née dans QF, dans Questions féministes, et le comité s'élargit et permet une publication régulière et une assise éditoriale beaucoup plus forte. Et donc là, on a des thématiques nouvelles, celle de la violence contre les femmes notamment, des textes comme ceux de Patricia Romito, par exemple, qui va publier dans la revue. On va avoir dans cette période, au début des années 2000, l'affaire du foulard, du port du voile, qui va donner lieu à des publications de numéros sur l'articulation entre sexisme et racisme, qui vont être des numéros très forts de la revue. Des numéros aussi sur le féminisme en Méditerranée, dans les pays arabes, le féminisme en Amérique du Sud. NQF a cette volonté d'essayer de faire connaître les pensées féministes des autres pays. Et puis, en 2015, la revue... Patricia Roux part à la retraite et la revue se trouve rattachée à la Haute École de Travail Social de Lausanne. Donc les écoles de travail social en Suisse, comme en Belgique ou au Québec, sont partie intégrante des universités. Alors que nous, c'est dissocié. Là-bas, c'est vraiment dans les universités. Et ce rattachement à la Haute École de Travail Social va donner... la place à des thématiques qui n'étaient pas traitées, notamment celui du travail social, qui est un travail effectué par des femmes, beaucoup en direction de femmes, avec des moyens très peu dotés par l'État. Et puis la revue va toujours avoir un souci de penser le milieu féministe, son organisation, les formes de militantisme, et donc on a plusieurs numéros qui paraissent sur ça, avec au fil du temps des nouvelles thématiques qui vont apparaître, et donc dans les dernières années, la question de l'écologie a fait l'objet de thèmes de publication, avec un numéro qui s'appelle Androcène, qui était une terminologie que nous avons employée avant que Sandrine Rousseau lui donne plus de notoriété, mais aussi des thématiques qui ont suivi l'actualité, comme le vieillissement. On a eu le débat sur les retraites il y a quelques années, et on a eu des numéros d'NQF sur ce thème. Et puis là, la question des violences revient. Les deux prochains numéros sont consacrés aux violences et à des questions comme le matrimoine ou l'intelligence artificielle dans les transformations du travail des femmes. Et puis ce numéro sur le sport, eh bien c'est une nouveauté. Je crois que NQF n'avait en fait jamais traité ce sujet. Donc merci beaucoup à Sigolène de nous avoir permis de lancer cette thématique.
Justement, je vais me tourner vers vous, Sigolène Kochochek, puisque vous êtes l'une des coordinatrices de ce numéro-là. Avant que vous nous expliquiez un petit peu plus, je voudrais vous présenter. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation et de la formation, sociologue et professeur des universités à l'université Cergy-Paris Université. Vous avez débuté vos travaux, on y reviendra tout à l'heure, par l'étude des effets de l'ordre de genre dans l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans le secondaire. Vos travaux actuels portent sur le cybersexisme, notamment en contexte scolaire. Et donc, dans cette revue, vous publiez également un compte-rendu, on va y revenir tout à l'heure, sur un livre de Béatrice Barbus, du sexisme dans le sport. Avant ça, je voudrais vous demander pourquoi avoir décidé de consacrer une revue spécifiquement sur le sport.
Ce numéro-là sur le sport ? Oui. Merci à Christelle Hamel pour cette introduction à la revue. Et effectivement, moi j'ai un une socialisation de STAPS. J'étais enseignante d'éducation physique, donc j'ai tout un cursus en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Et en fait, j'ai fait du sport depuis que j'étais toute petite, comme beaucoup de ces personnes qui vont ensuite en STAPS. Et voilà, il y avait cette opportunité, cet immense événement tout à fait critiquable que sont les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques en France. Enfin, c'était juste un truc énorme et on ne pouvait pas rater ça. Et donc, il faut 2 ans hein, pour créer un numéro de cette revue, pour publier un numéro. Donc, on a pris les choses bien en amont pour pouvoir réfléchir à, comme vient de le dire Christelle Hamel, quelles sont les relations aujourd'hui, entre le féminisme et le sport, les sports, et comment est-ce que ça s'articule? Est-ce qu'il y a des travaux sur ces questions qui apparaissent? Qu'est-ce qu'ils disent? Comment est-ce que l'on pense aujourd'hui les choses d'une manière féministe? Est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce qu'on regarde spécifiquement les femmes dans le sport? Est-ce qu'on regarde tout autre type de sportives et sportifs? Et comment est-ce que tout ça s'articule également à la pensée féministe matérialiste qui est portée par la revue?
Alors, cette revue, vous publiez uniquement des chercheurs et des chercheuses. Est-ce que vous diriez que le sujet du sport est un sujet qui intéresse aujourd'hui les chercheuses, les chercheuses, le monde universitaire? En préparant cette entrevue, on a évoqué brièvement l'idée peut-être d'un léger snobisme du monde universitaire sur la question du sport. Est-ce que c'est ce que vous remarquez, vous?
Je sais pas. Alors sur la question du sport, non, parce qu'en sciences et techniques, enfin, il y a plein de labos qui travaillent sur le sport en France, partout dans le monde, par exemple, qui sont capables de décomposer le geste très précis du lancer de basket pour faire 3 points, etc., avec le tout petit coup de doigt qui va être magique. Mais notre question, c'était vraiment le féminisme et le sport. Et moi, c'est toujours une question. Vous avez entendu le sujet de ma thèse. C'était en 1998 que j'ai commencé ces travaux, donc on parlait pas encore du tout de ça, et ma thèse n'a pas été acceptée dans ce monde-là, dans le monde du sport. Une thèse sur ce sujet-là, c'était l'égalité, hein, même c'était même pas le genre, hein, ce mot-là est arrivé un petit peu après, a été refusée. Et donc j'ai basculé sur les sciences de l'éducation. Alors, il n'y a pas vraiment un snobisme du sport et de la recherche. Il y a beaucoup de recherches sur le sport, même en sociologie, même en psychologie, enfin dans des tas de domaines finalement. Mais la question du regard féministe sur le sport, là, il y a un nœud qui est assez fort, assez important, une espèce de... Alors, je sais pas si c'est un snobisme ou une espèce de réserve, de rejet, d'obstacle, parfois même de mépris par rapport à ces questions-là. Mais enfin, c'est des trucs de bonne femme. Et on sait bien que les trucs de bonne femme et le sport, bah, y a toujours eu des tensions depuis le début du sport, en fait. Donc, et là, je parle du sport, vraiment le sport néolibéral, le sport économique, pas l'activité physique que l'on peut faire pour être en forme, etc. Même si, évidemment, on est dans un mouvement sociétal et qu'il y a forcément des liens aussi.
Est-ce que c'est cette tension que vous avez essayé d'exprimer en appelant la revue Féminisme au risque du sport ?
Tout à fait. C'était assez compliqué pour ne pas avoir une espèce de schéma simpliste qui serait, en fait, on peut constater que les femmes, elles ont petit à petit conquis le domaine sportif, le sport. Elles y sont maintenant. Il y a même une loi sur la parité au niveau de l'organisation sportive, fédérale, dans les clubs, etc. Ça aurait été un schéma un petit peu simple. Et finalement, toutes les questions qui ont commencé à être soulevées, comment est-ce qu'on fait vivre ces catégories? Quelles sont ces catégories? Sont-elles encore pertinentes, ces catégories femmes, hommes, sport masculin, sport féminin? On sait qu'on a le sport masculin comme premier élément de repérage. Ce sont toujours les performances, ce sont toujours les pratiques masculines qui sont le repère intangible. Et on parle de foot féminin, on parle de handball féminin, etc., etc. Donc, il y a ça, mais il y a aussi quelle est la place des autres, des personnes minorisées, celles qui veulent jouer avec le hijab, celles qui sont dans des pays d'Afrique, celles qui sont en Asie, celles qui ont envie de se mobiliser pour ces pratiques sportives, celles qui ont aussi envie de faire l'expérience par le corps de cette expérience sportive, qui ont des corps en transition, qui ont des corps en transformation. Donc il y a tout un tas de nœuds, si vous voulez, qui sont très importants entre sport, corps et performance. Et on avait pour ambition d'essayer d'en dénouer quelques-uns, donc au risque au pluriel, du sport. Et puis c'est un petit clin d'œil aussi, parce que on dit ben le sport, il y a de la prise de risque, etc., etc. Et donc c'était un petit peu quelque chose à plusieurs niveaux.
Est-ce que vous voudriez nous dire deux mots de cette étonnante couverture? Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir de près, mais où on voit des sportifs jouer une sorte de squash, je ne sais pas trop ce que c'est.
Oui, je peux faire.
Ouais. Tennis, ouais. Volant.
Ouais. Oui, alors c'est tout à fait ça, c'est du tennis volant. Alors c'est poser la question, on a une collègue dans le comité éditorial qui nous fait de magnifiques couvertures depuis quelques temps, vraiment qui a une créativité qu'elle met à notre service bien volontiers, et c'est vraiment superbe. Elles sont toutes très différentes, et là l'idée c'était de ne pas coller justement à l'image du sportif ou de la sportive, etc., de pas être dichotomique, d'imaginer quelque chose d'un peu plus imaginatif, justement créatif. Et elle a trouvé cette gravure. Donc c'est une gravure qui date du début du XXe siècle. Je ne saurais pas vous dire la source, je sais pas si elle est indiquée, la source exacte. Et c'était imaginer, vous voyez, comment est-ce qu'on va faire du tennis en l'an 2000, et on va faire du tennis en mixité. Alors c'était intéressant, il y avait un homme, une femme, qui ont des petites ailes, qui sont volants et vont se balader au-dessus de la pelouse pour se lancer le volant ou la balle, là. Alors on sait quand même que le jeu de paume, donc l'ancêtre du tennis, c'est l'une des premières pratiques sportives, entre guillemets, auxquelles les femmes étaient conviées. Elles pouvaient participer au jeu de paume. Donc voilà, il y a quelque chose aussi dans cette histoire, dans ces fils historiques et de ces pratiques qui fait sens ici, avec cette espèce de rose un peu désuet et pastel.
Et oui, d'ailleurs, on disait avant de commencer qu'on adorait ce rose. Je suis très très fan de cette revue. Je pense qu'elle va trôner longtemps sur ma table basse. J'en serais très fière. Céline Froidevaux, je vais me tourner vers vous. Vous êtes docteur en sciences sociales de l'Université de Lausanne, spécialiste en sociologie du genre, du corps et du sport. Vous avez écrit dans cette revue avec Claire Nicolas, Penser les corps sportifs en féministe. On reviendra à ce texte dans un instant. Vous, à titre personnel, comment est-ce que vous en êtes venue à vous intéresser à la question du sport?
Alors bonsoir. Donc moi, c'est pas vraiment par rapport à des expériences sportives personnelles, même si j'ai toujours pratiqué du sport, mais c'est plus relié à mes expériences déjà corporelles, on va dire, en tant que femme dans la rue, dans mes expériences alors que j'étais en train de commencer aussi mes études déjà au lycée et à l'université, de voir aussi les stratégies que je prenais aussi le soir quand j'allais dans la rue, et très vite la question du genre, du corps et des espaces m'a occupé l'esprit, et j'ai ensuite voulu continuer cette réflexion dans le cadre d'une thèse de doctorat. Et je me suis, en lisant beaucoup les féministes sur ces questions-là, je me suis dit c'est fou, parce qu'il y a très peu de choses en fait sur le sport, ou du moins en tout cas la pensée féministe a beaucoup moins travaillé les questions de sport. Donc on en discutait juste avant, et je me suis dit que justement j'avais envie d'étudier les expériences corporelles dans un espace précis, et j'ai choisi les pratiques de tir à l'arc et de tir à l'arme à feu en Suisse, et j'ai appris moi-même aussi les pratiques pour pouvoir en fait vraiment discuter de qu'est-ce que ça fait aussi corporellement d'intégrer certaines pratiques, et justement d'articuler ces différentes choses. Et puis après la thèse, j'ai continué justement dans cette articulation là vraiment entre genre, corps et sport, et espace, objet, on pourrait dire, notamment en me questionnant sur qu'est-ce que c'est des corps par exemple, des personnes qui s'engagent dans l'ultra-endurance. Qu'est-ce que ça nous dit sur les normes en cours? Qu'est-ce que ça nous dit sur le genre aussi, quand on voit que des physiologistes de l'exercice se déchirent sur combien de pourcentage est la différence sexuelle selon les courses, et de se dire, en fait, tout à coup, qu'est-ce qu'on fait quand les résultats sont les mêmes, alors qu'on a toute une théorie derrière sur les corps et sur la différence sexuelle. Donc je trouve que le sport est un laboratoire très très intéressant au niveau social, parce qu'en fait il nous confronte à la fois à un système très binaire comme on classe les corps sur les catégories femmes-hommes, et en même temps ça nous met face à une diversité des corps et des performances qui fait forcément, on va dire, vaciller cette binarité.
Justement, sur cette question de la binarité, vous écrivez à un moment dans votre texte que le sport produit du genre. Est-ce que vous voulez bien expliquer ce que ça veut dire, le sport produit du genre? Et puis peut-être aussi préciser, on a aujourd'hui, je le disais en introduction, tout un tas de questions sur l'inclusion des personnes trans dans la compétition sportive. Est-ce que, de votre expérience, ça évolue concrètement, ou on est encore, disons, au début d'une conversation?
Alors, c'est des questions très 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 grandes, enfin très vastes, et mais pour répondre peut-être le plus rapidement possible, peut-être déjà placer justement, quand on parle du sport et quand je parle de binarité aussi, on parle aussi du sport institutionnalisé, c'est-à-dire comment il s'est développé le sport dit moderne, c'est-à-dire dans un mouvement d'institutionnalisation des pratiques qui s'est développé dès la fin du 19e siècle, hein, c'est pas si vieux le sport tel qu'on le connaît aussi maintenant, en fait a été, on va dire, une certaine machine institutionnelle à exclure les femmes. Mais ça ne veut pas dire que les femmes ne faisaient pas de sport ou d'activité physique. C'est-à-dire, c'est qu'elles étaient invisibilisées, mais elles-mêmes ont continué à faire des pratiques ou ont produit leurs propres institutions qui étaient invisibilisées, délégitimées, etc. Et ce qui est intéressant sur la question de la binarité, c'est comment, en fait, les institutions ont décidé, on va dire, de classer les corps. Et très vite, la question femme-homme est venue, en fait, le principe vu comme le plus légitime socialement pour séparer les corps, le genre humain. De dire, en fait, on met deux catégories qui seront toujours légitimes pour comprendre, pour juger, pour classer les corps. Et au début de l'institution, du mouvement d'institutionnalisation sportive tel qu'on le connaît, eh bien, c'est beaucoup les discours médicaux, en fait, qui ont renforcé cet argumentaire en disant le corps des femmes n'est pas fait à la base pour le sport, et si elles sont mises en mouvement, c'est pour, en fait, garantir un corps maternel, enfin un corps qui permettra une progéniture qui sera forte. Donc vraiment cette idée, le corps sain, l'esprit sain, donc une vision très eugéniste et qui a légitimé très longtemps, en fait, ce principe binaire. Et ce qui est intéressant, c'est que les premières féministes, si on veut, les pionnières aussi qui ont voulu intégrer les institutions, parfois utilisaient, mais de manière aussi stratégique, l'argument naturel de dire oui, mais on sait qu'on est faible, donc en fait donnez-nous au moins ces pratiques-là pour être institutionnalisées, alors que d'autres étaient revendiquaient le fait de tout à coup être hors des institutions pour pouvoir faire des pratiques qui n'étaient pas vues légitimes pour le corps des femmes. Et peut-être un exemple qui est intéressant pour vraiment comprendre comment la binarité du genre, elle se matérialise vraiment jusque dans les règles et jusque dans la matérialité des compétitions. Par exemple, une des seules pistes de Coupe du Monde de ski alpin que les hommes et les femmes concourent ensemble, c'est la piste de Wengen en Suisse, et en fait on enlève environ 10 mètres pour les femmes tout au début pour enlever de la verticalité à la piste. Et alors on pourrait dire mais il y a des arguments naturalistes, etc., enfin, biologisants, etc., mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on ne crée jamais des conditions pour comparer les femmes et les hommes pour s'assurer de la différence sexuelle et de jouer vraiment sur toujours cet argumentaire-là. Et en fait, il y a pléthore d'exemples, et très récents encore.
Mais d'ailleurs, toujours sur le ski, il me semble que dans vos textes, vous précisez que jusqu'en 2014, les femmes ont été privées de certaines épreuves de saut à ski aux Jeux Olympiques, notamment pour des raisons de... je crois que vous faites le lien avec les capacités reproductives ou la peur que ça entache ces capacités-là.
Tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, on parle d'une histoire, on peut se dire, il y a 130, 150 ans. Et en fait, il y a des réminiscences très fortes de cet héritage et de l'idée aussi d'une supposée faiblesse du corps des femmes, ou du moins une primauté du corps dit maternel. Donc les femmes, avant tout, il y a le rôle social de la maternité. Et effectivement, le Swaski est introduit qu'en 2014 lors des JO de Sochi pour les femmes, après une lutte d'une cinquantaine d'années de la part des sportives. Et un des arguments était que le Swaski allait contribuer à détériorer la fertilité des femmes. Et souvent, ce que je dis juste après ça, c'est que ce qui est intéressant, c'est de se dire où sont les appareils génitaux des femmes pour la fertilité et où sont pour les hommes, où sont les appareils génitaux de la fertilité, et de se dire mais finalement, en fait, justement, c'est très extérieur au niveau chez justement les hommes, chez les hommes cis. Mais qu'a fait l'institution sportive, qu'a fait le monde du sport? Eh bien, ils ont inventé des coques en plastique. Donc, comme quoi, en fait, quand on veut, entre guillemets, quand on veut intégrer et aussi inclure, on peut toujours trouver aussi des manières, en fait, d'accessibilité des pratiques.
Alors, on évoquait la question du genre, et donc on pense à la question de la binarité de genre. Et aujourd'hui, les personnes qui se reconnaissent pas dans la binarité de genre, donc je pense aux personnes trans, aux personnes non binaires, ben forcément dans le sport viennent questionner aussi cette façon de trier les sportives entre femmes et hommes. Il y a un texte dans cette revue, et je vais me tourner vers vous, Sigolène, pour en parler peut-être, qui vient parler un petit peu de ça. C'est un texte de Bastien Pouy-Bidard qui s'appelle Un horizon transféministe en EPS. Est-ce que vous voulez bien nous en dire deux mots? En parler un petit peu.
Oui, quelques mots en fait. Donc c'est un travail de. Alors peut-être je peux dire aussi dans l'ensemble des textes que nous avons reçus. Alors d'abord le groupe de coordination pour ce numéro a été composé de quatre personnes. Donc Eva Nada, Clotilde Palazzo-Crétol et Béatrice Berthaud et moi-même. Et ce qui était assez, il y a une espèce de forme d'adhésion. Enfin, on se met d'accord pour participer à la coordination de ce numéro. Et on a découvert au fur et à mesure nos discussions qu'il y en avait deux qui étaient plutôt pro-sportives, qui aimaient la performance, dont je pense moi, et deux qui n'aimaient pas du tout. Donc, c'était assez intéressant de pouvoir avoir des arguments qui pouvaient s'échanger à ce niveau-là. Quand nous avons reçu des textes, on a reçu de nombreux textes, et on a reçu quand même beaucoup de textes de doctorants, doctorantes ou de jeunes docteurs. Alors ça a quand même aussi du sens, ça veut dire qu'actuellement ces questions-là, comme l'a dit Solène Froidevaux, elles sont encore assez peu mises au travail. Le lien entre féminisme et sport, il est toujours à interroger, il est toujours à consolider. Dans ces textes de Bastien Pouy-Bidard, il s'intéresse à l'éducation physique et sportive et à la prise en charge des jeunes élèves trans. Actuellement, il y a tout un travail de l'éducation nationale en France pour accueillir ces personnes-là et leur permettre d'avoir une scolarité épanouie, on va dire. Il n'y a pas beaucoup d'accompagnement, en fait, en termes de formation. Et donc, ils s'intéressent à comment les professionnels se débrouillent avec ces accueils-là. Et dans ce texte, il a interrogé une jeune fille, je crois qu'il l'appelle Louise. Et c'est une jeune femme trans de 20 ans qui raconte un peu son expérience en éducation physique et sportive. Et le chercheur fait le travail entre l'association Féminisme, transféminisme, est-ce que considérer la question la matérialité des corps est pertinente? Est-ce que on peut finalement, est-ce que ça peut s'articuler féminisme et transféminisme, ou au contraire, Christelle Hamel l'a dit tout à l'heure, il y a aussi des tensions hein, dans les pensées autour de ces questions-là. Rien n'est finalement simple, ce sont des questions extrêmement complexes. On peut dire que un corps trans, c'est un corps qui est non fini, puisqu'il est en perpétuel mouvement, en évolution. Et donc, il y a toute une problématique autour de ça également. La jeune fille Louise lui racontait qu'en éducation physique et sportive, au baccalauréat, il faut faire un choix de menu. Je vois que vous êtes très jeune, donc vous connaissez, vous savez de quoi je veux parler, et que dans ces menus, on ne choisit pas tout. Hein, il y a des menus un peu typés. Et cette jeune fille, elle se disait, ben alors, qu'est-ce que je fais? Il y a des menus plutôt féminins, plutôt masculins, mais si je vais du côté du masculin, il y a la performance, mais est-ce que je me sens légitime? Du côté féminin, mais finalement, c'est ce que je préfère, parce que c'est plus créatif, il y a de la danse, par exemple, ou d'autres activités. Au fur et à mesure de cet article, ce que l'on découvre, c'est que finalement, il y a un vrai cheminement. Je trouve que c'est très intéressant de rendre compte, finalement, dans une espèce de forme raccourcie, ramassée, de toutes ces questions qui sont posées aussi sur cette question de binarité, le corps performant ou moins performant, sur... Ah mais moi finalement préfère être avec les filles au moment de la pratique sportive, mais si j'ai quand même une bonne note au barème, ça va m'arranger, donc j'ai des stratégies aussi pour consolider mes notes et mon barème. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui n'est pas figé, il y a des positions qui peuvent être stratégiques suivant l'objectif que l'on se pose, et cet objectif il peut se déplacer dans différents temps en fonction des enjeux qui se posent devant la personne.
Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bien parce sûr. Que c'est vrai que vous avez posé la question justement sur les personnes transgenres, enfin les athlètes transgenres. Et finalement, comme il y avait plein d'autres questions, j'ai déjà pris j'ai pris par ordre. Et en fait, effectivement, aussi dans l'article avec Claire Nicolas, on en discute. Et je pense que c'est justement quelque chose qui est important de voir justement dans cette production de la binarité de genre comment justement on ne permet pas à certains corps d'exister tout simplement, et en fait qu'il y a des corps qui sont pensables et des corps qui sont impensables dans la manière dont le sport s'est institutionnalisé et a classé les corps. Et aujourd'hui c'est une question qui est aussi délicate dans le sens où, par exemple, le CIO, donc le Comité international olympique, a très récemment décidé qu'en fait, ils arrêtaient de dire que le taux de testostérone était de tel. Enfin, ils ont décidé qu'ils arrêtaient ça parce qu'en fait, il y avait un seuil de testostérone pour dire soit c'est un homme, soit c'est une femme. Donc, vous voyez aussi l'arbitraire des catégories et la violence aussi que ça peut être pour les personnes qui ne seraient pas dans la norme corporelle qui serait attendue par des fédérations sportives. Et en fait, le CIO laisse en fait les différentes fédérations s'occuper au cas par cas, et on voit justement vraiment les différentes tensions qui peut y avoir là-dessus. Et je trouve justement que ça dit quelque chose aussi sur le corps performant, comment on traite le corps performant et comment parfois on va obliger des personnes à des prises d'hormones forcées ou de dire vous devez finir votre transition. Donc cette idée que les corps trans sont forcément des corps toujours en transition, en fait on peut choisir en fait de ne pas entrer dans la catégorie de l'un ou l'autre, d'être dans des corps non binaires, et que en fait là le sport, la seule réponse, les institutions sportives aujourd'hui, les seules réponses qu'elles ont sont des prises de médicaments ou en tout cas des altérations de sa propre volonté aussi. Donc ça pose vraiment des questions aussi de quels corps sont pensables et impensables, impensés et voire maltraités au nom d'une institution sportive binaire.
Est-ce que, alors je sais que dans votre position c'est difficile de faire des projections, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour les compétitions sportives, si elles continuent d'exister, permettront peut-être l'existence de compétitions auxquelles peuvent participer des personnes peu importe leur genre en réalité?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs exemples dans l'histoire, et notamment des Jeux Olympiques comme les Gay Games et d'autres sports qui, en fait, on va dire, d'autres compétitions, pardon, qui vont justement proposer des catégories beaucoup plus souples, justement en re-questionnant des catégories qu'il y aurait plus classiquement dans les Jeux Olympiques, par exemple. Après, il y a aussi d'autres exemples, mais qui sont vraiment au cas par cas et très au niveau des situations. Et je vais prendre le cas du tir à l'arc puisque c'est celui que je connais bien. Mais il y a par exemple aux États-Unis des compétitions qui se font par rapport à la puissance de l'arc et où on voit que en fait des fois c'est mixte, des fois c'est pas mixte selon les catégories. Et là, et en fait on fait différents tests avant les compétitions, et selon les résultats on va être mis dans une catégorie. Donc c'est vraiment tout à coup une photographie. À ce moment-là, on est dans cette forme-là, même si on sait qu'en fait le jour J d'une compétition, on peut être pas du tout dans cette forme-là d'ailleurs. Mais en fait, c'est dans cette idée de davantage une équité et moins poser la question, en fait, moins rendre centrale la question du genre que en fait la capacité physique à un moment T. Voilà, c'est des pistes.
Christelle, je voudrais me tourner vers vous. Quand on préparait cet échange, je vous ai demandé de me raconter un peu l'histoire que vous avez eue avec le sport. Et vous me racontiez à la fois des souvenirs dans lesquels je me reconnais énormément, de cours de PS absolument terribles, très centrés sur la performance. Et puis plus tard, d'autres expériences du sport avec peut-être moins cette idée de la performance, davantage celle d'un voilà. Je vous citiez par exemple la fête de l'humanité ou les Eurogames où on était davantage sur la question du collectif. Vous voulez bien nous le raconter un petit peu?
Oui, alors je pense que je fais partie, comme beaucoup de gens, des personnes qui, après leur scolarité, étaient des traumatisées du sport. C'est-à-dire que pour moi, les cours de sport, c'était vraiment pas le truc sympathique de l'école, de l'expérience scolaire. J'ai passé pas mal de temps à éviter ces cours de sport, à me trouver souvent des petits malaises ou des problèmes de qui me permettaient d'aller à l'infirmerie pour éviter le cours de sport qui était pour moi quelque chose qui me faisait violence parce que c'était un espace où j'avais l'impression de me faire engueuler tout le temps. Notamment au collège, on avait un enseignant qui nous hurlait dessus tout le temps. Et en fait, ce cours de sport, c'était ça, pour moi, qui était le plus pénible. C'est l'expérience du sport à coup de sifflet. Une expérience de discipline, d'apprendre une forme de disciplinarisation du corps, de nos personnes, donc un apprentissage de l'endurance, de la tolérance à la douleur physique, dans quelque chose, dans un objectif qui pour moi ne faisait pas sens, et qui en plus n'était sanctionné, qui n'avait pas d'autre objectif que la notation, l'évaluation. Ce qui est dans une perspective du coup de compétition, de concurrence les uns par rapport aux autres, cet enseignant était toujours dans la comparaison. Enfin, il nous comparait systématiquement avec des propos qui pouvaient être humiliants ou qui pointaient des éléments de nos corps ou j'ai pas un bon souvenir de cet enseignant, on va dire. J'ai d'autres bons souvenirs, l'expérience scolaire du sport n'a pas été une expérience très sympathique.
D'ailleurs, vous me disiez que vous dressiez des parallèles entre l'enseignement de l'EPS à l'école et une ambiance quasi militaire en réalité. Vous me rappeliez aussi que les premiers profs de sport étaient souvent des militaires.
Oui, alors effectivement, cet enseignant, c'était un ancien militaire, et la période dont je vous parle, c'est les années 80, en fait. Et à cette époque, on est dans cette phase où on est encore dans la massification de l'enseignement. Et la massification de l'enseignement, je fais partie de la génération, de cette génération où à peu près tout le monde arrivait au bac. Pour emmener tous ces élèves au lycée, puis après dans l'enseignement supérieur, il fallait des enseignants. Et qui pouvait enseigner l'activité physique dans le corps de l'État? Les premières personnes disponibles, c'était les militaires à la retraite, qui, eux, avaient une expérience d'entraîner les jeunes hommes qui avaient fait leur service militaire. Donc, il y a eu un transfert, d'un corps de métier à un autre, avec une manière d'enseigner le sport qui était assez particulière. Donc, le prof de sport, c'était très majoritairement un homme, et les profs de sport femmes étaient peu présentes encore. Donc ça s'est un peu transformé ensuite quand le service militaire a disparu. et que l'armée s'est professionnalisée. Là, on a eu une diversification des profils des enseignants dedans les cours de sport et du coup aussi une transformation des pratiques d'apprentissage avec quand même beaucoup moins ce côté discipline qui était assez assez marqué par le lien avec l'armée et qui donnait une coloration particulière. Ensuite, du coup, mon expérience sympathique du sport, elle vient après. Dans des expériences, dans des espaces militants. Alors, d'abord la Fête de l'Humanité, qui organise à chacune de ses éditions une course de 10 km, qui, dans laquelle je me suis trouvée embarquée par une copine et franchement, ne courant jamais plus de 5 minutes, je voyais pas comment j'allais tenir 10 kilomètres. Et bon, néanmoins, elle m'a embarquée dans cette aventure. Et ça a été d'abord une rencontre politique avec des militants qui adoraient le sport, mais qui organisaient cette course en la faisant précéder de discours, qui étaient des discours politiques aussi sur... l'organisation des Jeux Olympiques, qui cette année-là, je ne sais plus, c'était le Qatar, je pense. Non, c'est
pas Jeux Olympiques au Qatar.
Non, il y avait une grande compétition, en tout cas dans un pays où les droits des travailleurs étaient très malmenés et où il y avait une réflexion sur quelles sont les conditions de travail qu'on va imposer à toute une population de travailleurs pour rendre possible des activités sportives pour nos loisirs à nous, à travers des formes de compétition qui vont être retransmises à la télévision, qui ont lieu dans des grands équipements sportifs qu'il a fallu construire, et donc une réflexion sur le capitalisme lié au sport, les valeurs de compétition, de performance, de concurrence des nations, concurrence des individus, qui était donc une réflexion qui pour moi était importante et qu'on ne m'avait jamais transmise et qui m'a un peu réconciliée avec l'idée que le sport pouvait se pratiquer en n'étant pas spécialement d'accord avec ça. Et qu'il pouvait y avoir une déconnexion entre ces valeurs-là et la pratique du sport. J'avais besoin de cette reconnexion à l'activité sportive par une pensée politique un peu différente. Et je l'ai trouvée à la Fête de l'Humain. Alors, une course organisée qui est là pour se faire plaisir, donc, mais qui est en même temps une course où les critères pour que les personnes qui sont dans la compétition et qui aiment la performance puissent faire valider leur course. Donc elle est bien chronométrée avec en respectant tous les critères pour cela, avec les brassards, etc. Et donc je me retrouve à courir avec des gens de tous âges, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, de toutes les origines. Et alors nous voilà partis à courir et bon, je finis par perdre mon souffle assez vite puisque je n'ai pas d'entraînement. Mais tout au long, ça se voit que je suis rouge écarlate, que je ne sais pas gérer ma respiration. Et tout au long, il y a des personnes habituées à courir qui le voient, mais qui se disent il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Et qui font preuve d'une empathie, d'une bienveillance, qui me prennent par la main, qui me poussent doucement dans le dos et qui me donnent des conseils pour respirer, gérer ma respiration et aller jusqu'au bout. Et franchement, ça a été un très, très beau moment, un très joli souvenir d'activité sportive. Je suis arrivée au bout de ces 10 kilomètres, sur les genoux, mais tellement contente de moi que j'ai recommencé après.
Mais justement, sur cette question de l'articulation entre le sport et des valeurs, on va dire peut-être davantage tournées vers l'entraide, la justice sociale, l'émancipation, ça me donne envie de vous demander peut-être, Ségolène, de nous parler du texte d'Aurélie Aromatario, Puissance des corps et capacité d'agir, le roller derby entre pratique sportive et engagement féministe. C'est un texte justement où on comprend un petit peu cette, en quoi est-ce qu'une pratique sportive peut aussi être une pratique qui cherche à cultiver une forme de féminisme. Est-ce que vous voulez bien nous raconter un peu ce qu'on y trouve ?
Oui, cet article, on l'a trouvé assez original parce que finalement, la chercheuse a souhaité d'elle-même se confronter à ce qu'elle allait pouvoir étudier. Donc, c'est vraiment une immersion totale et une analyse avec des outils scientifiques, la phénoménologie, où elle va faire tout un travail sur la manière dont son corps se transforme, ce que ça lui fait d'entrer dans cette pratique, d'écrire les différentes étapes, etc. Alors, le choix du roller derby n'est pas anodin, puisque c'est une pratique dans laquelle il y a déjà une orientation féministe assez marquée, féministe et même queer, avec un accueil de tous les corps, comme elle le rapporte, et dans lequel on accueille volontiers les nouvelles venues, les nouvelles personnes qui veulent bien venir se confronter à cette pratique-là. Et elle s'est vraiment immergée pendant un terrain assez long. Ce qu'elle raconte, c'est vraiment très intéressant de la finesse dont elle va rendre compte de ce travail des corps, cet empuissancement des corps, la transformation musculaire, la relation aux autres, la confiance en soi que l'on gagne, tu viens d'en parler Christelle, le fait d'apprendre à résister à des coups, à résister à des chutes, apprendre à chuter sans se blesser, etc. Et tout ça, c'est quelque chose qui lui arrive progressivement, qui finalement va tisser aussi un chemin personnel, singulier, mais très collectif, puisque le collectif est énorme, enfin, soutient énormément la pratique. Elle discute ensuite entre coéquipières. Là, tu m'as fait ça. Quand tu fais ça, moi, ça me fait quelque chose, etc. Il y a tout un travail de relation aussi qui est étudié et dont elle rend compte dans cet article. Des positions, de personnes avec des corps qui viennent de différents horizons, de différentes qualifications, je ne sais pas comment on peut dire maintenant, c'est vrai qu'il faut que l'on trouve des mots, des horizons aussi avec des orientations sexuelles qui peuvent être variables, qui sont en tout cas présentes, sans être mises sous le tapis, mais dont on ne fait pas un objet particulier, à condition que chaque personne se sente bien et puisse vraiment être partie prenante. Alors, c'est ça ce qui est quand même au fondement de cette pratique, c'est qu'on fait pas semblant de jouer. Il faut vraiment, vraiment aller dans la pratique, et c'est une pratique où il y a quand même une confrontation physique des corps qui est rude, qui peut être rude par moment, mais elle raconte ça très bien dans son article, et c'était assez intéressant de sélectionner cet article parmi tous ceux aussi que nous avons reçus.
Alors, son approche à cette chercheuse, elle est, on pourrait la qualifier de phénoménologique. Est-ce que Solène, vous voulez bien expliquer en deux mots ce que c'est la phénoménologie et peut-être faire le lien avec le travail de Iris Marion Yang que vous avez étudié, je crois, et notamment, il me semble qu'il montre l'impact que peuvent avoir en fait les structures patriarcales jusqu'à notre façon de faire usage de nos corps, notamment dans l'activité sportive.
Oui, et j'avais justement aussi utilisé pour ma thèse sur les pratiques de tir. J'avais aussi utilisé cette phénoménologie et cette, on dit souvent auto-ethnographie, enfin aussi de vraiment comment nos propres expériences, enfin comment nos corps se transforment, comment ça transforme aussi la relation aux autres. Alors peut-être pour le dire très simplement, la phénoménologie, c'est vraiment l'idée de penser le sujet, l'individu en lien avec son environnement matériel, pour le dire simplement. Donc vraiment en lien aussi avec les objets, etc. Donc toujours penser le sujet lié à un environnement, à un espace qui va lui permettre en fait de déployer ou pas des capacités corporelles. On peut pas faire pour être très concrète, on peut pas être le même. On est plus ou moins contraint comme sujet corporel dans un ascenseur par exemple dans un champ seul, dans un champ immense. Donc vraiment voilà, pour vous donner l'idée de qu'est-ce qu'on entend par environnement matériel. Et puis effectivement, Marion Iris Yang était une philosophe américaine qui a pas seulement initié, c'est pas la seule, mais qui a en fait à travers un de ses articles vraiment pionnier lié la question du féminisme, de l'approche des approches féministes et de la phénoménologie du corps. Et elle prend un exemple du lancer de balle. Donc son article célèbre s'appelle Lancer la balle comme une fille, et elle montre comment quand on lance une balle avec la main où on a appris à écrire, à part si on est ambidextre, on va dire, eh bien en fait les filles ont tendance à lancer la balle vraiment en utilisant que l'avant-bras de leur bras, que l'avant-bras pour vraiment lancer la balle. Donc on imagine déjà au niveau vraiment simplement physique que la portance ne va pas du tout être la même, alors que elle remarque que chez les hommes, les garçons, les garçons ont plutôt tendance à utiliser tout le haut de leur corps, donc d'utiliser l'amplitude aussi du corps et pas seulement du bras, donc vraiment déjà d'aller beaucoup plus derrière pour lancer la balle, ce qui va déjà créer en fait forcément un résultat différent dans la projection de la balle, mais qui montre aussi une utilisation du corps indépendamment d'éléments déjà physiologiques, rien que dans le fait comment on bouge notre corps, comment on le meut, je crois qu'on peut dire ça comme ça, oui, comment on le meut.
Est-ce qu'il va pousser des gens à dire que du coup par exemple les femmes ne sont pas faites pour les jeux de ballon par exemple?
Exactement, et ce qui est intéressant aussi dans l'approche phénoménologique, c'est de se dire en fait comment on apprend ça, enfin on se dit bon en fait on pourrait dire non mais c'est biologique, point final, voilà, bon mais forcément comme on est sociologue on répond pas, on va creuser, on va dire mais en fait quels sont aussi les apprentissages corporels, et notamment en fait à quel point on est amené à prendre des risques en étant enfant, quelles sont en fait les consignes, quand c'est qu'on nous dit d'arrêter, quand c'est qu'on nous dit de nous défouler, etc. Et dans cette idée on voit à travers le concept autiste de socialisation différentielle comment on va créer des rapports au monde, des rapports au corps, des rapports au sport, des rapports aux risques différents entre les filles et les garçons, notamment en ayant dans l'idée que les garçons doivent beaucoup plus se dépenser que les petites filles, que les filles, si elles tombent, souvent on a tendance à les ramasser plus vite ou même les ramasser avant qu'elles tombent. Donc dans cette idée déjà d'un contrôle même des corps, de manière souvent inconsciente, de la part aussi des adultes, de la manière dont on laisse aussi les enfants se développer corporellement et aussi dans le champ du sport, en choisissant, en développant aussi des préférences pour les filles et les garçons qui vont amener à des développements du corps justement beaucoup moins dans la prise de risque pour les filles ou dans le développement des muscles, etc. Et aussi par les objets, pour prendre l'exemple des balles, aussi comment par exemple dans le domaine scolaire, il y a les fameuses balles en mousse, il faudrait regarder statistiquement, mais moi je me rappelle souvent qu'à l'école, quand on disait bon, il y a les balles en mousse, il y a les balles de football, il y a les balles de basket, bon les filles, je pense que vous allez plutôt prendre des balles en mousse, ou par exemple quand on jouait à des jeux collectifs mixtes, c'était comme il y a les filles, on va plutôt prendre les balles en mousse. Et vraiment dans cette idée, en fait, même de la matérialité, c'est ça aussi que j'aime beaucoup dans l'approche phénoménologique, se dire, en fait, ça va même jusqu'à dans la matérialité des objets, à quoi je suis confrontée, à qu'est-ce qui m'est accessible et inaccessible. Donc, en fait, peut-être cette balle de football, je la vois là, mais j'y vais pas, parce qu'en fait, on m'a jamais encouragée à y aller. Et si j'y vais, peut-être que, en fait, on va me dire, mais c'est pas vraiment une balle, c'est pas vraiment une balle pour toi. On va peut-être dire, t'es sûre que tu veux vraiment aller là? Parce que si jamais on est en train de faire un jeu plus sur la souplesse à côté, et peut-être que tu seras plus adaptée là. On va pas forcément nous le dire comme ça. Mais c'est aussi ça, cette approche phénoménologique, c'est de se dire comment on apprend de manière inconsciente à être orienté vers certains objets et certains espaces.
Mais c'est drôle parce que ça fait écho à une expérience personnelle que j'ai. Moi, je trouve que quand je ne suis pas en train d'animer ce genre de conversation intéressante, je suis prof de yoga et il m'arrive très souvent de transmettre des postures assez avancées, assez difficiles à mes élèves. Et je vois bien souvent la différence entre des élèves femmes qui vont, par exemple, avoir peur ou devoir dépasser une peur plus grande de s'écraser la tête la première dans une posture donnée,
et de certains élèves hommes qui, de toute évidence, ont beaucoup moins de difficultés à envisager de se faire mal et qui donc progressent plus vite, non pas parce qu'ils ont une appétence ou un don particulier pour le yoga, mais simplement parce qu'ils sont davantage enclins à potentiellement s'écraser un peu le visage sur le sol, ce qui finalement ne fait pas si mal. Et d'ailleurs, moi, ça fait vraiment partie des choses que j'essaye de transmettre, c'est de dire et vraiment, et je pense que c'est un acte féministe fort de réapprendre à oser se faire mal, à avoir un rapport un peu différent à la douleur physique. Bon, il s'agit évidemment pas de se casser le bras, voilà, mais simplement il me semble qu'il y a un enjeu féministe. Et d'ailleurs, quand je le dis à mes élèves, qui sont souvent des personnes assez engagées, notamment féministes, quand je leur dis, mais vous savez qu'il y a un enjeu féministe à apprendre à se faire un peu mal, notamment dans une activité sportive, et ben ça marche très bien. Et après, en général, elles osent davantage. Je vous ai pas encore posé la question, mais le titre de votre article, Solène, c'est penser le sport en féministe. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Penser en féministe.
Alors, c'est penser les corps sportifs en féministe. Et alors, il y a toute une généalogie par rapport à l'article que je vais peut-être pas refaire tout ici, mais peut-être juste dire. Donc, effectivement, je l'ai écrit donc avec une, j'ai coécrit avec une collègue et amie avec qui j'ai fait la thèse. Donc, on se connaît maintenant depuis une dizaine d'années et on a les deux évolué, elle en tant qu'historienne dans le champ des sciences du sport, moi en tant que sociologue. Et puis, on a traversé en fait de manière un peu différente. Différents instituts, différents projets aussi postdoctoraux, etc. Et puis on a décidé de monter une conférence où on a, c'était il y a 2 ans, on a réuni une vingtaine de personnes justement sur cette question du féminisme et des études sur le sport, où c'est qu'on en est aujourd'hui, et notamment aussi en tant que jeune chercheuse dans ce domaine-là. Et en fait, ces réflexions ont été nourries pendant pas mal de temps, et avec Claire ensuite on a soumis cet article-là, qui se veut vraiment un essai, plutôt un essai qui se base vraiment sur une littérature scientifique, mais qui est aussi une invitation à penser donc les corps en féministe, dans le sens déjà de vraiment réaffirmer à quel point le sport est important pour la pensée féministe. On en a déjà pas mal discuté, mais souvent, si on regarde dans les pensées féministes, le sport a des fois été un peu mis de côté, et qu'aujourd'hui, si on regarde aussi historiquement, pour nous, c'est important de faire une rapide histoire de la pensée aussi de la pensée féministe sur le sport. Et au final, ça commence dans les années 1960, mais ça se stabilise un peu plus dans les années 1980. Donc en fait, je pourrais me dire, là, nous, on est la deuxième génération de chercheuses sur les sciences du sport, ce qui montre que c'est vraiment un domaine qui est aussi assez neuf. Et puis il y avait cette idée de le penser en féministe dans le sens et de penser les corps en se disant le corps a une place proéminente dans le sport, et pourtant beaucoup d'études sur le corps n'ont pas traité du sport, alors qu'en fait le corps, c'est à la fois le corps en mouvement, c'est à la fois montrer les corps, enfin la médiatisation est aussi impressionnante, la médiatisation du sport, par exemple les retransmissions les plus suivies dans le 20e siècle, dans les 5 premières, il y en a 4, c'est lié au sport. Donc on se dit, en fait, c'est quelque chose qui est très présent dans nos sociétés, où on est vraiment mis toujours en fait face à des corps aussi sportifs. Donc pour nous, c'était en même temps de remettre au centre les corps sportifs. Et puis en féministe, c'était dans cette idée en fait de à quoi ça nous engage aussi de traiter, en tant que chercheuse qui s'inscrivent dans des études féministes, les corps sportifs, et aussi de réfléchir quelles sont les personnes finalement qui militent, œuvrent, travaillent sur les corps sportifs, ou qui travaillent en tant que corps sportif. Et l'idée aussi de cet article était de donner la parole, notamment aussi, en tout cas, de montrer l'importance de la parole des sportives, parce que on peut voir parfois aussi comment dans l'histoire de la pensée féministe, mais même, je dirais même de manière plus générale, dans l'histoire de la politique universitaire, l'idée que ben, en fait, dans le monde du sport, souvent, les personnes vont se revendiquer beaucoup moins féministes, où il y a finalement peu de féministes dans le sport. Alors, je caricature, c'est pour le dire assez rapidement, mais en fait, pour nous, c'était aussi de re-questionner ça et de se dire, de faire attention à ce rejet, un peu cette idée du rejet du label, et qu'en fait, finalement, il y a quelques voix de femmes féministes dans le sport, mais en fait, finalement, il n'y a pas forcément ces possibilités-là. Et de se dire, finalement, se revendiquer féministe, ça veut dire quoi? Au nom de qui, pourquoi et quelles possibilités on a? Et comment, en fait, ça peut être aussi parfois des stratégies. Par exemple, Alice Mia, qui a été une pionnière dans l'institutionnalisation du sport dit féminin en France, elle ne se revendiquait pas du féminisme. Pour autant, en fait, elle a œuvré énormément pour le droit des femmes dans le sport. Et d'autres femmes se revendiquaient féministes ou ne se revendiquaient pas féministes tout en agissant pour le droit des femmes parce qu'en fait, elles savaient qu'elles auraient des résistances au moment où elles élaboraient aussi ce terme-là. Donc, se dire comment aussi nous, parfois aussi en tant qu'universitaires, on peut utiliser cette revendication, parfois pas, hein, aussi selon les instituts, mais de voir comment, en fait, de davantage faire aussi un lien de collaboration, en fait, hors des universités, d'entendre à quel point on peut apprendre aussi. Alors, ça peut paraître basique dit comme ça, mais vraiment, cette collaboration aussi hors université, beaucoup plus aussi de recherche-action, d'apprendre à la fois des personnes qui sont dans le milieu sportif et des personnes qui pensent le sport, peut-être davantage. Et puis, pour nous, c'était aussi vraiment à un niveau plus de la pensée féministe, parce qu'on écrit aussi beaucoup, cet article, c'est aussi beaucoup réfléchir à nos pratiques de recherche sur quel corps on étudie, quel corps on n'étudie pas, et en fait de se re-questionner sur ça et de critiquer aussi ça pour davantage avoir une diversité des corps sportifs. Et là, je me suis perdue. je me suis perdue. Oui. Enfin, je pense que j'en ai dû. Non, peut-être je voulais juste encore ajouter, pardon, sur l'aspect aussi dans la pensée féministe, sur cette question interdisciplinaire. C'est-à-dire que, en fait, vous le disiez très bien, Ségolène, mais il y a vraiment cette idée que finalement, en fait, dans les études universitaires, il y a des choses sur le sport, par exemple, notamment dans la physiologie, en biologie, en biomédical, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Souvent, en sciences sociales, on est vu comme moins légitime aussi à travailler sur les questions de sport et de se dire, mais quelles sont les possibilités de travailler encore davantage ensemble? Et il y a des exemples et je reste optimiste sur le fait qu'on peut être plus interdisciplinaire pour traiter de la question des corps, pour justement être d'autant plus connecté à la réalité en fait des personnes qui font du sport et de l'activité physique.
On arrive à la fin de notre échange et on va passer aux questions du public. Mais avant ça, je voulais vous demander toutes les deux si vous aviez quelque chose à rajouter, quelque chose que vous vouliez partager avant qu'on se tourne vers vous un peu plus.
Oui, peut-être revenir sur au risque puis ça permettra peut-être un peu de ramasser dans la continuité de tous ces échanges que nous avons eus. Il y avait cette tension entre nous, le groupe de coordination aussi, quand on a produit l'appel à article, qui était finalement quelles sont les stratégies du féminisme au regard du sport par rapport à tout ce qu'on vient de dire ensemble. Est-ce qu'il vaut mieux revendiquer, militer, faire quelque chose de très spécifique autour des femmes, leur accorder plus de place, plus de temps de retransmission, leur permettre de gagner plus d'argent, etc. On voit que c'est très complexe. Et l'exemple d'Alice Mia qui a structuré hein, des organisations sportives, alors que elles avaient été interdites par de Coubertin. Ou alors, est-ce que l'autre stratégie, c'est de contourner, de passer par autre chose, d'avoir d'autres pratiques, d'avoir quelque chose qui s'immisce davantage, qui remodèle, qui puisse poser d'autres questions. Et en fait, ce sont vraiment des tensions, ce sont encore des termes de débat. Ça a été votre question aussi, Camille. Et je pense que pour l'instant, personne ne peut trancher ça, mais on pourrait explorer les différentes possibilités. Pour finir, Alice Mia a été récupérée par De Coubertin dans ce qu'elle proposait, et il y a eu la possibilité que quelques femmes puissent participer à quelques épreuves sportives. Et Solène Froidevaux rappelait tout à l'heure que pour le saut à ski, il a fallu encore attendre plus d'une centaine d'années. Donc voilà, comment est-ce que ça se joue finalement? Quelles sont les différentes possibilités pour les femmes, les personnes qui se reconnaissent femmes, les personnes minorisées aussi, et puis les personnes partout dans le monde qui ont envie d'expérimenter la performance sportive ou de mettre leur corps à l'épreuve des pratiques physiques?
Oui, petite. Une dernière chose quand même. Un des éléments, je trouve, important qu'on a vu émerger dans les années récentes, c'est la question de la dénonciation des violences sexuelles dans le cadre d'activités physiques et sportives. Il aura quand même fallu attendre 2021 pour que le ministère de la Jeunesse et des Sports pense à mettre en place un plan de prévention de ces violences sexuelles, mettre en place des dispositifs de signalement et que une réflexion soit un peu menée pour prévenir ce type de violence dans ce cadre-là. Et donc, c'est quand même une réflexion un peu tardive. Bon, c'est dans toute la société, hein, le sport n'est pas n'est pas un espace, je dirais, où c'est pire que d'autres espaces en matière de violence contre les femmes, mais aussi de violence sexuelle commise par des adultes sur des mineurs. Et là, il était temps quand même qu'on ait quelque chose qui se mette en place, parce qu'on a la relation, et notamment pour les jeunes qui s'orientent vers les voies professionnelles du sport, la relation entraîneur-entraîné est quand même une relation particulière, avec un ascendant très fort de l'adulte sur le jeune qui ou la jeune qui est en formation, avec des enjeux, une relation qui relève de l'emprise, hein, et où dénoncer c'est quand même particulièrement difficile. C'est aussi difficile que de dénoncer l'inceste, en fait. C'était important que ça commence à émerger. C'est comme les viols dans l'église, en fait, c'est les mêmes types de mécanismes où l'institution est très forte. Il était temps que on voit ça émerger. C'est un des résultats du mouvement de dénonciation des violences sexuelles de ces dernières années. Il était temps que ça arrive.
Merci beaucoup. On va faire passer un micro, on va se tourner vers vous. Si vous avez envie de partager des choses, de poser des questions, c'est votre moment.
Eh bien, bonjour à vous. Déjà, merci pour cette belle présentation. Je vais essayer d'être claire, mais c'est un petit peu confus. Mais pour revenir justement sur la féminologie, est-ce qu'il y a dans la recherche des études qui justement pensent, en tout cas sur les questions de genre et de sport, pensent ces choses-là? Parce que par exemple, moi, j'ai le souvenir quand on était au collège ou au lycée, il y avait effectivement là, c'était vraiment, il y avait cette manière de vraiment binariser le sport avec des barèmes pour les courses, des équipes de tels sports qui sont féminines ou masculines, parfois mixtes, mais c'était plus dans les options sport. Mais par contre, en primaire, le sport était généralement plus mixte. Et du coup, est-ce que il y a des études qui se concentre sur le fait que qui se concentre sur l'aspect en fait de vraiment binariser le sport au collège ou au lycée, et est-ce que en amont par exemple justement vous parliez, pour reprendre l'exemple du lancer de balle, pour ma part je n'ai pas souvenir que les professeurs montraient différemment comment lancer la balle. Donc est-ce que ça c'est pas aussi tout simple, enfin plus lié à vraiment une socialisation des jeunes filles à être plus féminines, et les garçons à vraiment voilà on y va à fond? Est-ce que il y a des choses là-dessus? Ouais, merci
beaucoup. Je réagis directement ou est-ce qu'on prend plusieurs...
Alors, j'ai été informée dans mon oreille que le bâtiment allait devoir fermer plus tôt que prévu et donc ça serait la seule et unique question. Si vous avez une micro-précision à demander, vous pouvez. Mais on pourra continuer cette conversation dans la rue, si vous voulez.
C'est ça. Alors, je vais être rapide. Mais être rapide sur la phénoménologie, c'est compliqué. Mais alors, peut-être une chose... Je pense à un livre qui s'appelle « Pour en finir avec la fabrique des garçons ». Je ne sais plus si c'est le volume 1 ou 2 qui s'occupe du sport, mais qui parle beaucoup du sport justement en milieu scolaire. Et il y a quelques exemples, comme vous le disiez là, il y a quelques exemples vraiment qui montrent en fait comment on traite aussi différemment les filles et les garçons sur des aspects très matériels ou en fait tout à coup aussi, même si on ne le dit pas, qui sont les personnes qui vont porter les différents engins, etc. Et comment, je crois que c'est aussi dans la gymnastique où ils montrent qu'il y a des distinctions d'objets entre garçons et filles et qu'en fait c'est comme naturalisé, en fait c'est même pas re-questionné, puis on dit bah en fait les filles vous allez là et les filles ou même en fait par apprentissage vont vers certains engins plutôt que d'autres. Après bien sûr qu'au niveau de la socialisation il y a aussi pas mal de choses au niveau des objets. Donc, je vous invite vraiment à regarder aussi de la littérature sur la question socialisation différentielle et objets. Peut-être que Martine Cour a fait quelque chose, Oui, corps de fille, corps de garçon, justement là-dessus. Et puis après, ben, justement, la thèse de. Alors, je pense qu'elle a écrit des articles parce que peut-être une thèse, c'est un peu conséquent, mais de Aurélie. Aromatario. Et aussi ma thèse, alors pas pour que vous lisiez ma thèse, mais plus, en fait, il y a un ou deux articles que j'ai publiés justement sur cette question des objets, notamment dans le tir à l'arc, si jamais, où je montre justement comment différents objets vont en fait amener à développer différents corps et que là se jouent des questions de genre où les femmes, en fait, même si elles ont un meilleur niveau, choisissent souvent des arcs moins puissants. Et que c'est au moment où elles sont par exemple dans l'équipe nationale qu'elles se sentent entre guillemets légitimes à prendre des objets qui sont en fait adaptés à leur corps. Donc en fait qui montrent mais voilà, il y a d'autres choses, je pourrais vous donner beaucoup peut-être beaucoup de littérature là-dessus. Après ça reste quand même quelque chose qui se développe. Il y a pas tant de choses que ça, enfin oui, au niveau des objets, mais au niveau vraiment de d'aspects plus phénoménologiques et aussi de chercheurs et de chercheuses qui ont fait les pratiques et qui l'expliquent. Voilà, ça se développe, mais voilà, je peux vous donner...
Il y a tous les travaux de Christine Menson, mais qui sont plutôt sur les adultes. Elle a des doctorantes qui ont été sur les enfants, sur la cour de récréation, le football,
oui,
etc.
Oui, alors oui, effectivement aussi, bien sûr. C'est vrai que sur la question de la sociologie de l'enfance et notamment des cours d'école, oui, tout à fait. Et sur les jeux, là, il y a aussi beaucoup de choses.
Juste un tout petit truc pour compléter, il y a aussi des enquêtes quantitatives sur les pratiques des sportives des Français qui montrent que globalement, là à l'âge adulte, les femmes exercent des activités physiques et sportives qui sont moins coûteuses que celles des hommes. Donc dès lors que ça demande un équipement, soit mécanique, par exemple la moto ou la planche à voile, qui sont des choses qui sont relativement chères. Là, on voit des distinctions hommes-femmes vraiment très nettes. Et bon, il y a des distinctions de classe sociale aussi. Selon les milieux socio-professionnels, on ne pratique pas les mêmes activités physiques et sportives. C'est lié au coût, mais pas seulement. Il y a des affaires de distinction et de construction identitaire qui se joue là.
Et peut-être, après je finis, promis, sur la question aussi des objets, il y a aussi plusieurs historiens et historiennes du sport qui ont travaillé notamment la question des robes pour montrer justement comment il y a une socialisation aussi différente où les femmes se doivent d'être élégantes, notamment au début du 20e siècle, milieu du 20e siècle, et que justement il va y avoir aussi un développement différent des équipements sportifs et que par exemple les femmes sont en robe, donc ça permet pas en fait la même possibilité de faire du sport, etc. Donc là il y a aussi des choses, si jamais, dans ce domaine là
Je vous propose qu'on continue cette conversation dans la rue. Vous pouvez acheter Ben juste derrière vous, en réalité, vous avez la revue et ce numéro et des numéros passés que vous pouvez acheter. Merci infiniment à toutes les trois et merci beaucoup, cher public, pour votre
écoute. Merci à vous.